et elle n'est pas partie bien loin puisqu'elle est avec nous au bout du fil. On la retrouve avec plaisir, Monique Kirouac. Monique, les gauchers sont-ils plus créatifs?
Eh oui, grande question, n'est-ce pas?
Grande question, oui.
Alors, si je vous dis, Hélène, Léonard de Vinci, Lady Gaga, Van Gogh, Jimi Hendrix, Mozart...
Sont tous droitiers.
Pardon?
Sont tous droitiers.
Non, ils sont tous gauchers.
Ben oui, on ne l'avait pas vu venir.
Ben non, c'est ça.
Êtes-vous gauchère, vous, Monique?
Moi, non, je suis droitière. Non. Et vous?
Je suis droitière. Mathieu, droitier?
Je suis maladroit des deux.
Oui. Ambidextre, maladroit.
Exactement.
C'est ça. Alors, ça semble tomber sous le sens, aussi bien dans la culture populaire que dans la littérature scientifique. Le fait d'être gaucher est associé à une plus grande créativité. Sauf qu'en balayant plus de 100 ans de données, le postulat ne tient pas. C'est ce que nous assure en tout cas le psychologue Daniel Casasanto, qui est professeur à l'Université Cornell aux États-Unis. Alors, Daniel Casasanto a commencé ses travaux en partant de l'hypothèse que les gauchers sont plus créatifs que les droitiers. Son objectif, c'était d'étudier comment l'appréhension et l'utilisation de notre main dominante peuvent influencer notre créativité. Sauf que, en parcourant la littérature existante, son équipe de recherche et lui-même se sont rendus compte que, statistiquement parlant, ben, il faisait fausse route. Ils ont regardé toutes les études qui mesurent la créativité en laboratoire et dont la main dominante des volontaires a été répertoriée. Alors, pour évaluer différents pans de la pensée originale, toutes ces études se fondent sur trois tests. Il en nomme deux. Premièrement, la capacité de trouver un lien entre deux mots apparemment très éloignés. Et deuxièmement, la manière plus ou moins innovante d'utiliser un objet du quotidien. Et ce qu'on observe donc au travers des résultats à ces tests, c'est que les gauchers ne font pas preuve d'une créativité supérieure à celle des droitiers ou des ambidextres. S'il fallait tirer une tendance, ce serait au contraire que les droitiers sont plus créatifs. Alors, les gauchers semblent pourtant plus nombreux dans les métiers liés à l'art, la musique et l'architecture. Mais dans les deux premiers, la prévalence des gauchers est supérieure par rapport à leur répartition dans la population globale, mais ce n'est pas le cas pour le troisième, soit en architecture, pour essayer d'élargir le panel. Ben, les chercheurs ont analysé une vaste étude américaine de 2014 qui a classé, Hélène, tous les métiers selon le niveau de créativité requis. Ce qui ressort, c'est que l'art, la musique et l'architecture font bien partie des plus créatifs, mais on trouve aux premières places les mathématiques et la physique, des domaines où une pensée nouvelle est nécessaire. Or, à travers les 771 professions évaluées, la main dominante des individus ne semble pas avoir de lien avec le niveau de créativité. Et quand on regarde les 25 % des métiers les plus créatifs, voilà, ce sont les droitiers qui sont surreprésentés. Alors, que dire alors des théories neuroscientifiques sur le fonctionnement des hémisphères cérébraux qui soutiennent l'idée que les gauchers devraient être plus créatifs? Une de ces théories nous dit que la créativité loge dans l'hémisphère droit, que les gauchers stimulent quand ils manipulent un objet avec leur main gauche. Par relation de proximité, cela pourrait entraîner un surdéveloppement de la zone et stimuler leur créativité. Il y a une autre théorie, qui est celle de la communication interhémisphérique, qui suppose que la capacité à créer des idées nouvelles, des idées qui sortent du cadre, repose sur la communication entre les hémisphères. Or, celle-ci est plus développée chez les gauchers, sans doute, parce qu'ils ont plus souvent tendance à être ambidextres et à faire travailler les deux hémisphères au quotidien. De fait, les résultats de l'équipe du docteur Casasanto ne contredisent pas fondamentalement ces deux théories. Mais le chercheur pense que nous attribuons une trop grande importance à la main dominante, comme si, finalement, la deuxième ne servait à rien. Bien, en réalité, que ce soit pour planter un clou dans un mur, signer un chèque, ce qu'on fait de moins en moins, ou pianoter sur un clavier, bien, nos deux mains sont mobilisées, même si ce ne sont pas pour les mêmes gestes. Un droitier développe donc aussi ses communications interhémisphériques et son hémisphère droit. Alors, pourquoi cette idée de gaucher plus créatif s'est-elle alors si facilement imposée? Bien, c'est un peu une caricature de la science. Des papiers relayant cette idée ont rapidement attiré l'attention et ont été beaucoup repris avec un effet boule de neige. Sans compter que la science a tendance à tenir pour acquis certaines notions très novatrices qui s'appuient parfois sur des études peu représentatives, avec peu de participants, mais qui vont pourtant perdurer, accumulant des citations, dans d'autres articles. Mais ce n'est pas le point de vue de la science qui a influencé l'opinion publique. L'hypothèse du professeur Casasanto, c'est que nous avons tendance à associer les caractéristiques extraordinaires. Les gauchers sont rares, les génies créatifs sont rares, donc les deux sont forcément liés. Et cette association est tellement ancrée que la statistique la plus claire et la plus franche qui ressort de la méta-analyse de l'équipe de recherche du professeur Casasanto, c'est que les gauchers, comme les droitiers, sont persuadés que les gauchers sont plus créatifs, alors que ce ne serait pas vrai, selon ce professeur. Alors, voilà, Hélène, vous en savez plus sur cette croyance qui dit que les gauchers sont plus créatifs.
Bien oui, pour une fois qu'il y avait quelque chose de positif, parce qu'ils ont été souvent mis au banc, les gauchers.
Oui, aussi, c'est vrai, tout à fait. Hein, on nous tapait sur les doigts, des élèves qui étaient gauchers. Alors, c'est un article qui a été publié dans la revue Epsilon du mois d'octobre 2025.
Alors, je ne sais pas si vous avez tout prêt votre article concernant le hockey, Monique.
Oui, je l'ai.
Pourquoi on a le hockey et comment s'en débarrasser?
Alors, ben, pour répondre à la question, il faut commencer par révéler en fait ce qui se passe quand on a le hockey. Alors, il y a un muscle sous nos poumons qui s'appelle le diaphragme. Il est très important, mais même si normalement on n'a pas conscience de l'utiliser. Quand on inspire, ce muscle va tirer sur les poumons pour les aider à se remplir d'air. Quand on a le hockey, ce muscle va se contracter de manière involontaire. On parle alors de spasme. À chaque spasme, de l'air va rentrer très vite dans nos poumons, comme si on inspirait d'un coup. L'air qui va entrer va activer nos cordes vocales et ça provoque le fameux hic. Cela va se produire une seule fois ou plusieurs pendant quelques minutes. Hélène, je vous révèle un record du monde.
Oui.
Il est détenu par un Américain. Il l'a eu pendant combien de temps?
Dites-moi pas un an.
11 ans.
60 ans.
Non!
Oui.
Pauvre lui!
Ah oui, c'est ce que dit l'article en tout cas. Je ne sais pas comment on aurait pu réussir à manger, à parler, à faire quoi que ce soit en ayant le hockey comme ça.
60!
Alors, ça n'a pas d'allure. Hein?
C'est long, longtemps.
C'est long, longtemps, oui. Je ne sais pas comment ils l'ont arrêté. Est-ce qu'il est mort ou ça ne dit pas là dans l'article. Le hockey, c'est généralement déclenché par le fait de manger ou de boire trop et trop vite.
Moi, ça m'arrive souvent quand je ris. Quand
oui.
Je ris à gorge d'employé, j'allais dire, déployé, oui. À un moment donné, ça me fait hoqueter. Mais aussi les boissons gazeuses.
Ah, bon.
Poursuivez très cher.
Voilà pour les boissons gazeuses. Cela peut étirer et perturber notre estomac, puis ça provoque alors le hoquet lorsque le diaphragme se contracte. Mais il y a aussi des changements soudains de température ou une trop grande excitation. Alors, voilà la réponse.
Oui.
Si vous riez, vous êtes excité, ben ça peut déclencher le hockey. C'est bon,
okay.
Non?
Ben c'est bon, certain.
Faut pas rire. Alors, normalement, ces hockey se résorbent rapidement. Cependant, si une personne souffre d'une maladie du cerveau, des nerfs ou de l'estomac, elle peut avoir le hoquet souvent et pendant longtemps. Alors, comment le faire disparaître? Retenir sa respiration? Boire de l'eau à l'envers? Il existe des conseils en tout genre. La plupart des hockey, Hélène, disparaissent d'eux-mêmes. Il est donc difficile de dire si ces astuces fonctionnent. Et pourraient n'être qu'une distraction. Mais il pourrait aussi aider à réinitialiser les nerfs à l'origine du hockey. Il y a une grande étude comparant tous les différents traitements qui a montré qu'aucun d'entre eux ne fonctionne réellement.
Ah.
Alors, pourquoi nous hoquetons est une très bonne question. Et la réponse est que nous ne sommes pas vraiment.
On vous a perdu, Monique, la dernière phrase? La réponse?
J'ai dit pourquoi nous hoquetons est une très bonne question.
Ouais.
Mais la réponse est que nous ne le savons pas vraiment. Le hockey n'a pas de but évident. Il est possible qu'il ait fait quelque chose chez nos lointains ancêtres et qu'il ne nous ait jamais quittés. Alors, on nous donne l'exemple des têtards qui ont un réflexe de hockey qui les aide à préserver leurs poumons lorsqu'ils passent de la respiration sous l'eau à la respiration aérienne. Donc, notre réflexe de hockey pourrait provenir de nos ancêtres amphibiens. Nous commençons tous notre vie dans le liquide de l'utérus de notre mère. Une autre théorie veut donc que le hockey nous empêche de respirer dans l'utérus ou qu'il soit un moyen d'entraîner les muscles respiratoires après la naissance. Finalement, nous savons ce qu'est le hockey, mais nous ne savons pas vraiment pourquoi il se produit. La bonne nouvelle, c'est que la plupart du temps, on n'a pas à se soucier de savoir comment le faire disparaître.
Vraiment. Alors, intéressant ce texte sur le hockey. Merci de l'avoir partagé avec nous. Et vous, est-ce que vous avez un truc pour arrêter le hockey? Ou...
Ben, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas eu le hockey. Je ne sais pas si... Je pense que je laisse aller.
Vous laissez aller?
Ben oui, j'attends que ça passe.
OK. Ben moi, je t'ai porté à... J'ai déjà essayé le truc du verre d'eau, de boire un verre d'eau à l'envers, la tête à l'envers. Retenir ma respiration, j'ai l'impression que ça fonctionne. Et aussi, je sais pas si vous vous êtes déjà fait poser la question pendant que vous aviez le hockey, Monique.
Oui.
As-tu confiance en moi? Parce que ça déstabilise. Puis là, tu dis, bien oui. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que ton hockey s'est arrêté.
Ah, ben écoutez, la prochaine fois que j'aurai le hockey, si ça se produit, ou que quelqu'un dans mon entourage.
Oui, c'est surtout quelqu'un. Oui. Si votre chéri se met à hoqueter, posez-lui cette question-là.
Ça lui arrive parfois. Alors, je vais retenir cette question assez déstabilisante, en effet, mais peut-être que ça donne un message aux nerfs, comme on le relatait dans l'article.
Oui, certainement. Oui, ça aurait du bon sens. Mais en tout cas, je compatis avec la personne qui a eu le hockey pendant 60 ans. Si
oui,
ça
mon Dieu, quelle horreur.
Ah! Toujours avec Monique Kirouac. Yvan Deslauriers sera de retour jeudi prochain avec nous. Pour le moment, il est très occupé par les élections municipales. Monique, bonne nouvelle relative au cancer de la vessie.
Et oui, un test rapide qui a été développé à Sherbrooke, Hélène, est en voie de commercialisation. C'est après, bien sûr, plusieurs années de recherche et plus de 3 millions investis. Donc, cette équipe sherbrookoise est sur le point de révolutionner la détection du cancer de la vessie. Un simple test d'urine pourrait bientôt remplacer la cystoscopie, qui est une procédure invasive, douloureuse, coûteuse et parfois difficile d'accès. Alors, après un processus de validation rigoureux à l'échelle mondiale, l'équipe de l'Institut de recherche sur le cancer de l'Université de Sherbrooke et du Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke, cette équipe est maintenant prête à amener le produit au chevet des patients et patientes et s'allie avec une entreprise qui s'appelle RIND, R-Y-N-D Biotech, pour la commercialisation du test rapide. Cette innovation, déjà suivie par des experts et des investisseurs à l'échelle mondiale, représente une percée majeure pour le diagnostic du cancer de la vessie. Ce partenariat permettra de lancer le développement du prototype d'ici la fin de l'année pour une commercialisation prévue dès 2028-2029. C'est une avancée majeure parce que ce test est parmi les plus précis. Il permettra de détecter le cancer de la vessie plus tôt et dans des conditions, vous le devinez, moins anxiogènes pour les personnes touchées. L'arrivée de ce test sur le marché va changer la donne pour bien des gens tout en contribuant à réduire les coûts en matière de soins de santé. En recherche en santé, il est par ailleurs plutôt rare qu'une découverte franchisse toutes les étapes jusqu'à la commercialisation d'un produit concret à la suite d'une recherche fondamentale. C'est donc un très bel événement, je dirais. L'équipe de recherche s'est d'ailleurs mise à pied d'œuvre pour appliquer cette même technique au diagnostic du cancer de la prostate. Ils sont en train d'identifier les biomarqueurs qui y sont reliés. Alors, on a bien hâte à ce que tout ça soit mis sur le marché et peut-être donc une autre perspective positive avec le diagnostic sur le cancer de la prostate qui est assez invasif aussi démarche.
Très, très bonne nouvelle. Essai concluant pour une pilule masculine. Une pilule quoi?
Eh bien, oui, on est dans les recherches. Hein? Alors, une pilule masculine, est-ce qu'on aurait pensé à ça il y a quelques années? On l'a peut-être souhaité, nous, comme femmes. Hein?
Oui.
Alors, YCT-529, ça, c'est le produit, en fait, qui inhibe la production des spermatozoïdes dans les testicules de façon réversible par un mode d'action non hormonal. Alors, elle vient de prouver son efficacité chez l'animal et sa tolérance à court terme chez l'homme. Alors, on tient peut-être un véritable game changer, comme on dit en France, parce que c'est un article français, pour la contraception masculine. C'est ce que nous dit en fait Stéphanie Page, qui est chef du service d'endocrinologie de l'Arborview Medical Center. Bon, il y a une petite réserve, il faut que ces données scientifiques encourageantes se confirment, notamment par la tolérance à des doses répétées. Alors, c'est à suivre, Hélène.
Absolument, c'est une nouvelle surprenante.
Oui.
Et où sera construit le plus grand pont suspendu au monde, Monique?
Eh bien, ce sera entre la Sicile et l'Italie. Alors, c'est une bonne nouvelle, ça va faciliter les choses. On le devine, non? Le projet a dû susciter de nombreux débats. C'est le fait, en fait, depuis plusieurs décennies. Alors, le gouvernement italien vient d'approuver, finalement, la construction de ce qui sera le plus grand pont suspendu au monde, 3,7 km de long et 60 mètres de large. Alors, on pourra le traverser en 2032, puisque c'est à ce moment qu'on annonce la fin des travaux.
Alors, c'est à suivre aussi entre la Sicile et l'Italie.
Oui, on a beaucoup de choses à suivre. Hein,
oui, plein de choses, parce que ce sont des choses qui ne sont pas achevées, mais ils sont à l'état de projet. Et des projets qui sont bien entamés quand même. Et oui, on termine, bien. Monique, avec une capsule linguistique. C'est important d'intervenir à ce point-ci. Point oui. P-O-I-N-T, trait d'union C-I.
Exactement.
C'est bon, ça?
Alors, j'aimerais préciser, Hélène, que Guy Bertrand a publié un nouveau livre qui s'appelle « Le français au micro, chronique de langue ». Et en fait, ce sont des phrases qu'il a entendues au fil des années où il a travaillé à Radio-Canada. Donc, ça a été entendu sur les ondes de cette radio.
Oui, on en entend de toutes les couleurs.
Ah, mon Dieu, je vais revenir sur rencontrer, d'ailleurs. Oh là là! Alors, la locution à ce point-ci n'est pas usuelle. On dit plutôt « à ce point » ou « à ce point-là ». Ce sont des locutions qui servent à marquer un degré d'intensité. On peut dire, par exemple, « je ne savais pas qu'elle était malade à ce point » ou « à ce point-là ». Si on revient à la locution à ce point-ci, il faut référer à l'anglais, en fait, parce que ça vient des locutions « at this point » et « at this point in time ».
Yes.
Donc, ils servent à indiquer le moment où on se situe dans le temps.
Mm-hmm.
De beaux équivalents en français, ben, c'est « à ce stade » et « à ce stade-ci ». Donc, on aurait pu dire
«
c'est important d'intervenir à ce stade-ci ».
À ce stade-ci et non à ce point-ci.
Voilà, exactement.
Ah, mais je ne savais pas que Guy Bertrand avait publié un nouvel ouvrage.
Oui, tout à fait. Écoutez, c'est un ouvrage assez volumineux.
Assez costaud, oui.
Je vous donne le nombre de pages. On en a 428 pages. J'avais pas mal épuisé ces capsules linguistiques, tome 1. Alors, j'étais très heureuse de voir cette nouvelle publication.
Alors, il a dû sentir là, que vous étiez... presque au bout de son premier livre.
oui, exactement. Je l'en remercie, puis c'est très intéressant.
Et nous, on vous remercie beaucoup, Monique Kerouac, et on vous souhaite une très belle semaine.
Bien, à vous aussi, Hélène. On se retrouve jeudi prochain.
Avec plaisir.